Théâtre et littéraire pour tous, nous allons parler ce soir de l'art de la mise en scène qui respecte le texte en s'affranchissant quelquefois des conventions du théâtre pour aller au plus près de la vérité des êtres, du théâtre plaisir, du théâtre poésie, de la beauté, de la justesse et du mentir vrai naturel au théâtre, avec nos invités Yolande de Kersmaeker, Franck Verkruijzen, Pierre Vial, Jérôme Deschamps. Mais comme chaque semaine, nous allons commencer en musique et avec Dominique A.
Quand de tout vous serez lassé, juste un canal à traverser, rejoignez-moi à Elior. Avant que la vie ne se défile, avant gagner l'autre bord, rejoignez-moi à Elior. Les vestes pendues au pater et l'immuable pour bréviaire, les tracés blancs sur la chaussée, fourmillement de mille pensées, les galeries à ciel ouvert, où vont les figurines pressées. Quand de tout vous serez lassé, juste un canal à traverser, rejoignez-moi à Elior. Gagnez l'autre bord, rejoignez-moi à Elior. Ville d'abandon de bord de mer, longue semaine à négocier. Oh Dieu, que ce silence rend fou. Dans la brume en pièces détachées, qu'avons-nous encore à cacher quand il reste si peu de nous? Oh Dieu, que ce silence rend fou quand délibère nos cellules, comme alors l'air est minuscule. Un canal à traverser, rejoignez-moi. Avant que la vie ne se défile, avant de gagner l'autre bord, rejoignez-moi.
Demain, c'est Torcello, n'est-ce pas?
Quoi?
C'est demain que nous allons à Torcello.
Ouais, c'est exact.
Je suis contente. Je voudrais y être déjà.
Il est bon, ce livre?
Oui.
Qu'est-ce que c'est?
C'est ce nouveau roman de ce type, Sphinx.
Ah, ça. Jerry m'en a parlé.
Jerry, oui?
Ouais, la semaine dernière, au restaurant.
Ah, vraiment? Il a aimé?
Bah, Sphinx et son poulain, hein. Il a découvert.
Ah oui? Mm-hmm. Ah, je ne savais pas.
Oui, le manuscrit lui est arrivé par hasard.
Hein? Mm.
Tu le trouves bon alors?
Oui. Mm. Oui, très bon. Ça me plaît beaucoup.
Jerry aussi le trouve bon. Tu devrais venir déjeuner avec nous un de ces jours pour en discuter.
Est-ce absolument indispensable? Il n'est pas si bon que ça.
Tu veux dire qu'il n'est pas assez bon pour que tu viennes déjeuner avec Jerry et moi pour en discuter?
Mais bon sang, de quoi tu parles?
Non, il faudrait que je le relise maintenant qu'il est sorti.
Le relire?
Ah oui, oui. Jerry voulait que je le publie.
Hein, hein? Vraiment?
Ah oui, naturellement. Mais je l'ai refusé.
Pourquoi?
Bon, il n'y a plus grand-chose à dire sur ce sujet-ci.
C'est quoi le sujet, d'après toi?
Bah, trahison.
Non, pas du tout.
Ah non, c'est quoi alors?
Je ne l'ai pas encore terminé, je te le dirai.
Eh bien, tu me diras.
Ouais.
Bien sûr, je le confonds peut-être avec un autre livre. À propos, je suis passé à l'American Express hier.
Hein?
Oui, oui, je voulais changer d'échec de voyage, il donne un taux beaucoup plus intéressant que dans un hôtel.
Ah bon?
Ah oui, bref, il y avait une lettre pour toi là-bas. Ils m'ont demandé si tu avais un lien de parenté avec moi, et j'ai dit oui, alors ils m'ont demandé si je voulais la prendre. En fait, ils me l'ont donné, mais j'ai dit non et je l'ai laissé. Tu l'as eu?
Oui.
Tu as dû y passer hier soir quand tu es allé faire les boutiques?
Oui, c'est ça.
Bon, je suis content que tu l'aies eu. Pour être honnête, j'étais sidéré qu'on me propose de la prendre. Oh, chez nous, ce serait impensable. Mais bon, ces Italiens sont si décontractés. Je veux dire, le fait que je m'appelle Downs et que tu t'appelles Downs ne veut pas dire pour autant que nous sommes les messieurs et madame Downs, qu'avec leur désinvolture méditerranéenne, ils présument que nous sommes. Hein. Nous pourrions être, et tout porte à croire que nous devrions être, totalement étrangers l'un à l'autre. Supposons que moi, dont il présume avec désinvolture que je suis ton mari, j'ai pris cette lettre en déclarant être ton mari bien qu'étant totalement étranger à toi, et que je l'ai ouverte et lue par simple curiosité, et ensuite que je l'ai jetée dans le canal, et voilà. Tu n'aurais jamais reçu, hein, tu vois. Tu aurais été spolié de ton droit légal d'ouvrir toi-même ton courrier. Et tout ça au nom du je m'en foutisme vénétien. Non, j'ai bonne envie d'envoyer une réclamation au doge de Venise, hein. C'est d'ailleurs ce qui m'a retenu de prendre cette lettre et de te la porter, la pensée que je pourrais très bien être totalement étranger à toi. Ce que ces gens-là ne savaient pas, bien sûr, et n'avaient aucun moyen de savoir, c'est que je suis ton mari.
Et voilà, il paraît que vous êtes son mari, Franck. Il paraît que vous êtes le mari de Yolande.
Apparemment.
Merci de ce court extrait de Trahison, donc de Pinter, que vous interprétez pour notre plus gros bonheur au Théâtre de la Bastille en ce moment. Ce n'est pas la première fois que vous montez Pinter, ce n'est pas la première fois qu'on voit votre manière de déconstruire le théâtre sur un plateau, de vous affranchir de toutes les règles, comme s'il n'y avait pas de théâtre, pas de décor, pas de personnage. Donc nous, spectateurs, on croit à ce qui vous arrive. Et la construction de cette pièce de Pinter est absolument extraordinaire puisque elle commence par la fin, elle va remonter le temps et comme le titre l'indique, c'est une mise en abîme du désir dans un couple et de la manière d'alimenter ce désir au prix de l'infidélité. Comment avez-vous travaillé cette pièce et à partir de quand avez-vous décidé de l'inscrire à votre répertoire?
On a travaillé la pièce en automne 2011. Et on a bien sûr travaillé à trois. Donc, à part Yolande et moi, il y a Robbie Claire qui est aussi présent sur le plateau. On se connaît très bien depuis pas mal de temps. Et voilà, il y a une grande complicité entre nous, ce qui est quand même vachement nécessaire pour monter cette pièce. Et donc, cette complicité était plutôt le début de la découverte de cette pièce et aussi de le développement de cette pièce. Et donc, c'est aussi toujours grâce à cette complicité, à cette compréhension mutuelle, bon, qu'on peut continuer à développer la pièce. Parce que, bien sûr, c'est un truc quand même sur le fil du rasoir. Il y a l'économie des mots, le mot juste, les temps qui ne doivent pas être désabusés, etc. Donc, c'est un truc assez chaud. C'est pas gagné quand on commence à jouer la soirée. Il faut toujours la découvrir ensemble. Et donc, il faut pouvoir compter sur une grande confiance, une grande connaissance de l'autre. Et aussi d'une certaine attraction émotionnelle, physique entre les trois personnes, quoi. Et donc, on s'aime beaucoup, comme comédien et comme personne. Et voilà, ça, c'est quand même la nourriture de ce spectacle de notre compagnie.
Alors, nous allons parler d'Antoine Vitez avec Pierre Vial et Jérôme Deschamps tout à l'heure à l'occasion de la publication de deux livres qui lui sont consacrés. Dieu sait qu'il a travaillé à déconstruire le personnage, ce que ça veut dire un personnage. Et quand on vous voit tous les trois sur le plateau de la Bastille, on se dit que vous poussez encore plus loin le phénomène de la déconstruction du personnage. Donc, on pourrait dire que c'est un trio bourgeois, que c'est un couple qui se trompe et qui, entre parenthèses, se trompe là aussi, comme dans les comédies de Feydeau que Jérôme Deschamps reprend à la Comédie Française avec le meilleur ami du garçon. Donc, en apparence, un texte ultra classique qui est en fait aussi une déconstruction. Et vous, ce qui est extraordinaire dans votre jeu, mais je crois que votre théâtre est basé là-dessus, c'est que vous jouez pas les personnages, vous jouez vous-même. On a l'impression que c'est vous-même qui jouez votre propre vie sur le plateau. Pourquoi ? Et est-ce l'effet désiré ?
Bon, en fait, la seule chose, ce qu'on fait, c'est que c'est jouer les personnages comme on le comprend, comme on comprend ce que c'est jouer.
Pour l'être.
Oui.
Pour être le personnage.
Oui, si vous voulez, oui. Ouais. Et donc, disons qu'on permet aux spectateurs de voir les deux, de voir les comédiens présents sur le plateau et aussi de voir les personnages s'ils veulent ça.
Vous êtes, oui, pardon, Yolande.
Non, mais tout commence pour moi. Pour moi, tout commence avec la première lecture d'un texte. Et s'il y a à ce moment-là un lien qui m'attire, mais qui m'attire personnellement, que je dis, bon, là, je peux entrer dans le texte, il y a une sorte de désir de... Moi, je ne vais pas à un personnage. Il y a quelque chose qui doit s'ouvrir, en fait, en moi-même, pour que ça devienne intéressant ou pour que ça devienne quelque chose d'unique. Sinon, c'est, pour moi, ça ne m'intéresse pas.
Bon, c'est un peu... Oui, mais le théâtre, c'est l'illusion. Or, quand on vous voit jouer, on a vraiment l'impression qu'effectivement, il se passe quelque chose entre vous trois qui est du ressort de la vérité. Alors, est-ce que c'est peut-être l'absence de décor, la dynamique des dialogues, l'importance des corps, de l'émotion des corps, car ils sont très très présents hein, à l'intérieur de la scénographie que vous utilisez. C'est comme si c'était vrai.
Mais bien sûr, dans notre perception, il y a plein de décors, il y a plein de lumières, il y a plein de costumes.
Ah, il y a plein de lumières, mais il n'y a pas de décor.
Le décor,
c'est une bouteille de pinard avec des verres.
Ouais, et puis,
comme d'habitude, vous buvez pendant que vous jouez.
Il y a quand même les meubles.
Les meubles qui sont là sur...
C'est une interprétation d'un décor, ça c'est clair. Mais je pense que le paradoxe est très très intéressant et passionnant à assister. C'est que on risque aussi d'être confessionnel sur le plateau. On peut jouer que nous-mêmes. Et que les choses qu'on vit vraiment, etc. Bien sûr, le contraire est vrai. Donc, mentir honnêtement, ce que vous avez dit...
Le mentir vrai.
Voilà, donc ça, c'est un jeu enfantin qui est bien sûr très, très passionnant. Faire croire à l'autre que c'est vrai ce que tu dis, tandis que les deux savent que c'est pas vrai du tout. Et quand même, faire semblant ce truc. Et ça, c'est un truc très passionnant aussi, à part ce truc dont Yolande te parle, d'être investi dans une relation ou dans une réalité d'un personnage qui t'importe ou qui t'est très important. Donc, mais les deux sont très importants, les deux aspects.
Jérôme Deschamps.
Oui, alors, écoutez, moi j'ai une grande fille qui s'appelle Juliette Deschamps, mais qui était petite. Et quand elle est petite, je lui demandais « qu'est-ce que tu fais ?» Elle me disait « je m'amuse à jouer ». Et j'adore ça, au fond. Et moi, je continue. Et elle aussi d'ailleurs. Mais je crois que c'est très important de penser que c'est un jeu. Pendant un moment, quand j'étais au conservatoire, les gens disaient plus, on leur disait mais qu'est-ce que vous jouez ? Ils disaient non, on fait un travail. Parce que c'était plus sérieux de dire on fait un travail. Et je pense que cette dimension du jeu, c'est quelque chose d'essentiel. Moi, c'est ce que je dis tout le temps aux acteurs, aux chanteurs aussi. Et c'est très important qu'ils l'entendent. C'est tout d'un coup cette scène, c'est une salle de jeu au fond. Aussi. Et c'est une salle de jeu où, comme le disent nos amis, il faut s'investir, bien sûr, il faut s'approprier les choses. Mais voilà, on joue.
Mm-hmm. Oui.
Ce que je trouve adorable, c'est de nouveau ce paradoxe des comédiens qui sérieusement sont en train de préparer un truc hilar, par exemple. Moi, je trouve ça toujours phénoménal de prendre sérieux le jeu, en fait. De s'amuser, c'est le but, et on prend ça très au sérieux. Donc ce paradoxe est adorable, je trouve.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que nous sommes en train d'improviser. Hein. Qui pensent que... Ah, mais c'est, ah, c'est pas improvisé.
On n'est pas aussi malin que ça.
Mais vous improvisez beaucoup. Mais non,
mais
vous
faites... Mais c'est pas vrai. Nous avons la perception que vous improvisez, effectivement.
Pas un mot.
Pas un mot, hein. Mais c'est vraiment très, très...
Et en sortant, on regarde le texte et on voit que vous avez dit le Pinter.
Non.
Oui.
Mais donc, vous avez cette touche particulière qui vous appartient en propre depuis longtemps maintenant, qui est cette espèce de pseudo-amateurisme au théâtre. Vous faites comme si vous n'aviez pas appris votre texte et comme si vous disiez quelque chose qui est plutôt votre histoire personnelle que le texte de Pinter.
Mais c'est pas de l'amateurisme.
Jérôme Deschamps.
C'est pas de l'amateurisme, ça. Ça, c'est du grand professionnalisme, je pense. Vraiment.
Oui. C'est aussi parce que on a une confiance entre... Moi, j'ai confiance en Franck. Franck, il a confiance en moi. Il a confiance entre des comédiens qu'on peut se lancer, qu'on peut
tomber.
Ça, c'est quelque chose qu'on peut être vulnérable. Ça, c'est quelque chose.
Et aussi, je pense, une clarté vis-à-vis de l'approche du jeu.
Oui,
et l'approche du sujet qui est l'illusion. Vous voyez, donc, on est très clair entre nous. On n'est pas en train de jouer des personnages. On dit le texte d'un auteur, d'une dame ou d'un monsieur qui a écrit une œuvre. Ouais, donc il y a une sorte de clarté. Et donc, on crée, si tout va bien, une sorte de bulle d'oxygène pour les gens qui sont dans la salle, qu'ils puissent, s'inclure ou s'inscrire sur ce qui se passe ou pas. Mais trois petits points au lieu d'un point d'exclamation, quoi. Et donc ne pas souligner et trop insister et leur convaincre obligé de penser telle ou telle chose. Mais de dire, voilà, c'est ça ce que je pense et qu'est-ce que vous pensez, vous. Et peut-être, si tout va bien, c'est ce qui rend la chose palpitable.
C'est-à-dire que la pièce, la nature même du texte de Pinter vous autorise peut-être à aller encore plus loin dans l'illusion qu'est le théâtre, mais une illusion que vous rendez si parfaitement que ça devient peut-être la réalité de ce que nous vivons peut-être dans notre vie personnelle.
Oui,
spectateurs, parce que c'est l'histoire d'un couple donc qui se trompe, mais le mari sait très bien qu'en fait sa femme le trompe avec son meilleur ami depuis très longtemps. La femme feint de l'ignorer, mais se rend compte qu'elle aurait dû le savoir depuis longtemps. Enfin bon, c'est un jeu de miroir comme ça infini, et c'est un jeu cruel avec la vérité.
Oui, mais c'est toujours ça. Je pense que c'est cet état de pouvoir s'identifier avec les choses qui sont dites ou qui se passent sur le plateau, ou le contraire, de se distancier de cette identification. Ce qui rend le spectacle vivant, important et
essentiel. Brûlant.
Oui.
Qu'est-ce que le répertoire pour vous? Qu'est-ce qu'un texte? Est-ce qu'il faut être fidèle au texte? Est-ce que la mécanique du texte vous importe? Et on y reviendra aussi avec Jérôme Deschamps et la reprise du fil à la patte de Feydeau à la Comédie française.
Ouais. Pour nous, l'amour qu'on partage, c'est pour le texte et pour les auteurs qui ont écrit cette œuvre, cette partition très précise et très juste. Et bien sûr, Pinter est un exemple par excellence de l'économie des mots et du mot juste. Par exemple, un monsieur comme Tchekhov, c'est autre chose. Et tous les auteurs sont différents dans ce sens. Mais donc, Pinter, dans ce sens, est vraiment... Ce serait un peu débile, je trouve, de paraphraser, de dire n'importe quoi, tant que la phrase est dite à peu près, etc. Non, c'est la partition 100% qui nous passionne, et donc on veut rester fidèle en général, mais particulièrement avec Harold Pinter, bien sûr.
En fait, c'est aussi l'histoire de Franck, Robbie et moi qu'on joue à côté de l'histoire de Pinter.
Alors Pierre Vial, qu'en pensez-vous de toute cette discussion illusion et vérité,
je pense
réel et fiction, qu'est-ce qu'un texte, le répertoire?
Je pense que chacun doit faire comme il a envie de faire, et que de toute façon, si on a l'impression que ce n'est pas du Pinter et que c'est bien, c'est que ça en est. C'est-à-dire que Pinter voulait que ça colle aux interprètes. Et forcément différents selon leur nationalité, selon leur apparence, etc. Et je crois que, en fait, c'est un problème qu'il faut arriver à faire. C'est-à-dire que je n'ai pas vu l'avare, mais j'ai vu un avare où chacun semblait être dans l'enjeu de ces personnages par rapport au personnage despotique qui est le premier rôle, qui est Harpagon. Voilà. L'idéal, c'est que ce soit... qu'on ait l'impression que c'est la première fois qu'on voit Andromaque, qu'on voit bourgeois gentilhomme, qu'on voit Don Juan, etc., etc.
Mais ça, c'est un idéal, effectivement.
C'est un idéal. Disons que des gens comme Villard l'ont atteint. même si un jour on a un projecteur malheureux a découvert Villard en train de lire son texte sur des panneaux parce que il avait tellement de travail que la mémoire était parfois défaillante, voilà, des choses comme ça. Mais cela dit...
Donc à chaque fois, pour vous, qu'il y a la création d'une pièce par un metteur en scène, l'idéal c'est de nous permettre à nous, spectateurs, de la découvrir comme si c'était la première fois.
Exactement. Ça, je crois
une nouvelle pièce, une nouvelle écriture, des nouveaux enjeux.
Je crois que c'est important, et notamment...
Vitesse dit exactement le contraire dans le Théâtre des idées, là, chez Gallimard, qui vient d'être publié. Il dit que quand il commençait une mise en scène, il donnait aux acteurs toute l'historicité à chaque... personnage des différentes interprétations antérieures.
Oui, mais il demandait aussi aux acteurs
donc
vous parlez
de ce que vous avez vécu là, Jérôme.
Oui, il demandait aux acteurs de répéter pour de bon, c'est-à-dire de faire les choses ici et maintenant et pour de bon tout de suite et pas du tout avec cette idée que c'est pour plus tard. Vous voyez ce que je veux dire ? Je te le ferai. Vous savez, il y a beaucoup de comédiens qui travaillent comme ça. Ils parlent avec le metteur en scène. Ils disent, ah oui, j'ai compris, oui. Non, mais je te le ferai. Oui, non, mais je vais y penser. Mais je vais... On s'en fout. Je veux dire, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Fais-nous quelque chose maintenant, qu'il se passe quelque chose, même une fraction de seconde. Ça sera un événement, ça sera un petit moment de théâtre et on le gardera. Et Antoine Vitesse, il avait aussi la passion des personnes et il partait aussi des personnes, bien sûr qu'il allait très très loin dans l'exigence de la forme, mais il partait aussi des gens, et c'est ça aussi la beauté de la chose. C'est, pour revenir à ce que vous disiez, c'est à dire qu'il les aimait aussi vraiment.
D'ailleurs, il disait par exemple qu'il ne s'agit pas de jouer Pyrrhus, mais il s'agit de se demander quel Pyrrhus on peut faire. Non pas que tout le monde peut jouer à n'importe quel âge Pyrrhus, mais enfin quand même, des gens qui, dans une autre classe, auraient travaillé essentiellement des clowns, et d'ailleurs il faisait aussi travailler les clowns, Antoine, il était partisan d'un champ très libre et très large du théâtre, comprenant des gens dévastés par la vie, dévastés par les guerres, etc., les alliés à des petits bourgeois, grandis, c'est-à-dire tellement petits bourgeois qu'ils en devenaient l'exemple même du petit bourgeois. Qu'est-ce que c'est que cela ? Et surtout, que quelqu'un qui disait « moi, je ne jouerai jamais Racine », de l'obliger à rentrer dans Racine. Et disons que c'est par la suite, ceux qui l'avaient dit « tout le monde travaille Andromaque », par exemple, enfin Racine, Andromaque et Phèdre, disons, tout le monde le fait, c'était bénéfique à tous. C'était bénéfique à tous parce que chacun voyait ce qu'il pourrait faire, si, disons, comme il disait aussi, sous peine de mort, il était obligé de jouer Tartuffe. Dans le fond, peut-être qu'il trouverait un véritable génie dans Tartuffe, dans Pyrrhus, dans Oreste, dans Titus, etc.
Oui, Yolande ?
Oui, ce qui est aussi peut-être important de dire, c'est que nous autres, chez Stan, on travaille sans metteur en scène. Il n'y a personne qui me dit « tu dois faire ça comme ça ou ça ou ça ». Ça, c'est, je pense aussi que c'est une différence. Donc, on a la responsabilité est chez moi et chez Franck et d'investir ou de... On n'a rien contre la metteur en scène, mais c'est quelque chose qui est né, qui est évolué depuis... On a commencé dès que nous étions à l'école. On avait un professeur qui nous a dit « moi, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. C'est vous-même qui vous devez. Il faut penser vous-même. Il faut prendre la responsabilité d'être là. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu veux être là? Pourquoi tu dis ce texte? Et c'est toi qui dois prendre la décision. » Donc il n'y a personne qui nous dit « voilà, vous allez jouer ce texte ». Il n'y a pas cette obligation, c'est quelque chose qui est né, qui vient de nous. les trois qui sont là sur le plateau, on a pris la décision de jouer ça et on a nos raisons, mais qui sont, il y a des raisons qui sont prononcées, que nous avons prononcées, les Lado Prisechtebe, que nous avons prononcées, mais il y a aussi des motivations que je vais jamais dire. Il n'y a pas de mots, mais moi je sais pourquoi je veux jouer cette pièce avec Robbie et Franck.
Qu'est-ce qu'un metteur en scène, Jérôme Deschamps? Parce que quand on vous voit sur le plateau de l'Opéra Comique, où vous mettez en scène les Mousquetaires au couvent, mais où vous avez décidé, et je pense que c'est pas un hasard, d'être aussi sur le plateau au moment où votre mandat expire, donc c'est votre dernière mise en scène à l'Opéra Comique, et comme par hasard vous jouez un rôle de Benet,
c'est un peu
magnifique.
C'est un peu par hasard en fait, parce que il y avait un comédien suisse qui le faisait à Lausanne, et malheureusement, il a eu un problème de santé, il n'a pas pu venir. Et alors, voilà, on s'est réunis, on a commencé à chercher, et puis voilà, on a dit, c'est toi, tu n'as qu'à le faire.
Et donc vous êtes aussi sur le plateau?
Oui.
C'est assez magnifique.
Et il est formidable, génial.
Oui, mais ça, j'aime beaucoup.
Faites-nous un petit extrait live, comme tout à l'heure, Franck et Yolande.
Je ne vais pas faire un extrait du gouverneur, et je ne vais pas chanter comme je le fais ce soir, même si j'ai lu dans un grand journal du soir que j'avais une voix de crécelle, mais quelquefois je fais un peu exprès. Mais je vais vous faire une petite phrase d'un personnage dont je me suis inspiré pour jouer le gouverneur, qui est une phrase qu'il a prononcée sur cette antenne il y a quelques années. C'était Jacques Duclos. Et on l'interviewait, qui était le grand responsable du Parti communiste français. Et on l'interviewait, on disait, mais dites donc, Jacques Duclos, vous avez bien connu Staline. Et il a répondu, j'ai très bien connu Staline. On a dit beaucoup de mal de cet homme-là. En réalité, il était extrêmement humain. Il adorait les enfants. Il était très ému par les malades. Et je dois ajouter qu'il avait un très bon coup de fourchette.
Je me suis un peu inspiré de ce timbre pour faire le gouverneur. D'accord. Qui, lui, n'avait pas connu Jacques Duclos, parce que l'œuvre est de 1880.
Alors donc, les gens l'ont un peu oublié, mais Jérôme Deschamps est un grand acteur et j'espère qu'il va retrouver d'ailleurs les plateaux de théâtre de l'autre côté.
Il paraît.
Et je crois savoir que vous allez jouer dans l'affaire Bettencourt prochainement à la rentrée.
Oui.
Je ne sais pas quel rôle. Liliane, peut-être.
Non, pas Liliane. Patrice Demestre, c'est celui qui négocie un bateau, je crois, de mémoire.
Il s'en est bien tiré. Au niveau du jugement, en tout cas.
Je suis pas sûr de ça, moi aussi. Bon, je sais pas. Mais c'est oui.
Donc la question est, qu'est-ce qu'un metteur en scène? Pourquoi avez-vous décidé d'interpréter un des rôles principaux dans Les Mousquetaires au couvent, tout en étant metteur en scène?
C'est pas du tout un des rôles principaux. Ne dites pas ça. Je dois dire 20 répliques et je chante 4 phrases les répliques, que l'on sera sûr.
Vous oubliez de dire que vos répliques attirent là quand même l'attention sur vous et font de ce gouverneur une espèce d'ubu au pays des couventines.
D'accord.
Et qui parle par onomatopée.
Oui, mais si vous saviez comme c'est difficile.
Ce qui doit être compliqué.
De jouer Simon. Non, je ne fais que m'amuser. Alors,
s'exprimer sous forme d'onomatopée.
Oui, mais non, mais ça, c'est pas la première fois que je fais ça dans des spectacles. Mais j'en ai fait beaucoup où il y avait très peu de textes aussi. Mais non, mais ce que je fais à côté de ce que font les chanteurs à côté, Anne-Catherine Gillet. Mais c'est rien du tout. Je veux dire, c'est des merveilles absolues et ce sont des gens qui marient l'excellence absolue dans le chant, qui ont des voix absolument divines et qui ont cette qualité de jeu du théâtre. C'est merveilleux. C'est un bonheur de travailler avec Franck Le Guérinel, de travailler avec Sébastien Guez. Enfin, je ne peux pas tous les citer. C'est une autre émotion, mais elle est particulière à l'opéra comique, puisque l'opéra comique, c'est un art qui mêle le théâtre et l'art lyrique. Mais vous ne pouvez pas savoir le bonheur que c'est de voir, par exemple, de jeunes artistes, puisque j'ai j'ai fondé l'Académie de l'Opéra Comique et de voir de jeunes artistes qui s'élèvent comme ça, qui s'éveillent à la fois au théâtre et à l'exigence du chant, c'était tout à fait bouleversant.
Donc vous allez continuer par-delà l'expiration du mandat.
Oui, puis j'ai des complicités formidables. Et quant au fait de décider, oui, ben, il faut bien décider de monter quelque chose. En l'occurrence, pour moi, c'était un peu facile parce que je suis le directeur. Alors c'est moi qui ai décidé de monter Les Mousquetaires au couvent, qui est une œuvre très drôle, qui est impertinente, où on se moque
De
la religion.
Et on voit quand même dans votre mise en scène, Jérôme Deschamps, un Christ qui, à l'heure de la pause repas, descend de son crucifix pour aller manger un petit sandwich et puis remonte sur son crucifix une fois le sandwich avalé pour reprendre sa pause langoureuse.
Ben oui, il faut bien se nourrir. Mais nous, on s'amuse énormément. Mais c'est des œuvres impertinentes. Très souvent, vous savez, ce genre de répertoire, ça a été un peu méprisé parce que c'est un répertoire qui peut faire rire ou qui est léger. Mais cette musique légère, elle demande une exigence incroyable.
En tout cas, succès fou pour ces Mousquetaires au couvent.
Oui, on a de la chance.
Les gens découvrent cette œuvre car elle est assez méconnue.
Elle est très méconnue.
Et je crois que là, pour le coup, c'est l'art de votre mise en scène et de l'interprétation et de la qualité des chanteurs qui emporte l'adhésion d'un public qui vient passer un moment de pur plaisir, de pure réjouissance.
Merci, mais n'oubliez pas que l'œuvre, elle aussi, quand elle a été créée en 1880, elle a eu, contrairement à d'autres comme Carmen, immédiatement un énorme succès et elle a fait le tour du monde.
C'est le rôle de l'opéra comique que de redécouvrir ses répertoires oubliés.
Oui, en tout cas, c'est le rôle que je me suis donné aussi, c'est de remettre dans la lumière ce répertoire magnifique qui est quelquefois méprisé, d'ailleurs, surtout en France, parce que à l'étranger, on adore l'opéra comique.
Alors, à partir de ce soir, reprend aussi à la Comédie Française un des grands succès des dernières années, c'est votre mise en scène d'Un fil à la patte. En début d'émission, on parlait de Trahison de Pinter, on parlait de la mécanique du désir, de la mécanique du drame bourgeois. Pourquoi aviez-vous choisi cette pièce et avez-vous compris pourquoi, très vite, tout de suite, elle a obtenu auprès du public, et c'est ce qui va arriver de nouveau lors de la reprise, un immense succès.
Alors, c'est dû aussi au talent des comédiens français, bien sûr. Mais c'est je l'ai vu quand j'étais petit avec Jacques Charon, Robert Hirsch, aussi à la Comédie Française. Et moi, je suis très bon public, alors je ris très facilement. Alors, j'ai été obligé de voir la pièce en plusieurs fois, parce que j'étais obligé de sortir de la salle, tellement je riais. Mais j'adore ça. Alors, on parlait de la construction aussi, et de la mécanique. Vous savez, Feydeau, c'était un homme de plateau, et toutes les didascalies, toutes les indications sont extrêmement précises et elles sont absolument pertinentes parce qu'il a vérifié. Et donc, moi, je me suis beaucoup passionné pour la distance des portes, des meubles, des choses comme ça. Et il faut trouver la fluidité pour faire tourner une mécanique admirable. C'est-à-dire que c'est comme une montre à la mécanique sublime. Je veux dire, où vous vous penchez dessus avec admiration et vous dites, vous cherchez comment elle marche, comment on va la faire tourner merveilleusement, ou alors vous la retournez, vous mettez toutes les pièces par terre et puis vous dites, on va construire autre chose. Mais à ce moment-là, je trouve qu'il vaut mieux inventer soi-même. Mmh. Alors là, c'est une merveille. Et puis, on peut, tout en respectant cette mécanique, s'approprier les choses. Regardez ce que fait Christian Eck. Par exemple, ou Serge Bagdasarian, c'est simplement génial. C'est une invention. Ça n'empêche pas l'invention, ce respect. Au contraire, ça libère des énergies rares et extraordinaires.
Nous allons écouter la voix d'Antoine Vitez.
Je pense qu'il y a des véritables vocations et puis il y a des gens qui n'ont pas de véritable vocation. Moi, je crois que je n'avais pas une véritable vocation pour le théâtre. Et que c'est en le faisant, et par toutes sortes de détours, que je me suis mis à faire quelque chose. Et que je me suis mis à penser sur ce que je faisais et à penser ce que je faisais. C'est pourquoi je crois qu'à l'origine, il n'y a pas de pourquoi. Ou alors il y a des pourquoi que je ne peux par définition pas expliquer moi-même, puisqu'il serait explicable uniquement par une analyse, au sens de la psychanalyse et au sens de l'analyse, le mot, ce que recouvre le mot analyse en général. Donc voilà, je suis sceptique quant à la question des pourquoi. Je crois que le pourquoi en ce qui concerne le travail théâtral, enfin en ce qui me concerne, et probablement d'autres gens sont dans la même situation que moi, c'est un petit peu la même chose que les relations amoureuses. Je pense que très souvent des gens se rencontrent pour des raisons qui ne sont pas très profondes, pour des raisons qui ne sont pas autres que des raisons de désir banal. Et puis, ils restent ensemble. Quelquefois, ce n'est pas non plus pour des très bonnes raisons. Mais peut-être, c'est cette occasion-là qui fait germer entre les personnes une tendresse et une amitié profonde. C'est-à-dire que je suis un peu sceptique quant à la notion de, finalement, de vocation ineffable.
Nous venons d'entendre la voix d'Antoine Vitez. Le Festival d'Avignon va bientôt commencer. Il est hanté par le souvenir d'Antoine Vitez, à la fois par les différentes mises en scène qu'il a faites, notamment les quatre Molières, mais aussi cette cour d'honneur qu'il avait complètement métamorphosée, l'espace de nuits entières grâce à Paul Claudel. Antoine Vitez nous manque. Heureusement, il y a les livres avec sans arrêt des notations à la fois philosophiques, politiques, évidemment esthétiques et théâtrales. Deux livres, donc un très gros volume chez Gallimard, puis un autre volume au Solitaire Intempestif sur l'Antoine Vitez, homme de théâtre et photographe. Pierre Vial, vous êtes sociétaire de la Comédie Française, vous faites du théâtre depuis 5 décennies. Vous êtes rentré à la Comédie Française par Antoine Vitez.
Oui.
Pourquoi vous a-t-il engagé à la Comédie Française ? Vous le savez ou pas ? Il vous l'a dit ?
Ben, c'est assez banal. C'était avec Amour pour Amour. Et c'était, me semble-t-il, Bernard Deran qui devait créer le rôle. Et il se trouve que Bernard Deran, que j'ai rencontré, avec lequel j'ai beaucoup d'amitié, avait un petit peu dévié sa vie. Il aimait autant jouer au tennis que faire l'acteur. C'était, non pas qu'il le faisait mal, mais et donc ce rôle-là dans Amour pour Amour ne lui disait pas grand-chose. Et comme c'était André Stégère avec qui nous avions fait du théâtre dans le Limousin ensemble, un théâtre vraiment du début d'une future décentralisation à laquelle j'ai pas mal adhéré dans ma vie, disons que là il avait la passion de ça, là, il avait quelque part la passion de l'impossible, c'est-à-dire que c'est très difficile de faire du théâtre à Ivry, eh bien on va utiliser plusieurs salles d'Ivry et on va faire dans ces plusieurs salles du théâtre. Et puis il avait une école à Ivry et il disait peut-être que certains d'entre vous ne viendront que 2 ou 3 fois. Et ce que je voudrais, c'est que ces 2 ou 3 fois leur soient un bon souvenir. N'aurait-il fait que cela ? Et disons que il est arrivé à ce que des gens qui venaient voir ça comme ça et qui seraient peut-être restés 2 heures et puis seraient partis, eh bien, un certain nombre de ces gens ont adhéré au théâtre, au point de pouvoir en faire leur vie.
Mais dans ce livre, il parle de cercle d'amitié, dans cette première expérience d'Ivry.
La première expérience, c'était un cercle d'amitié que si vous venez 3 fois, j'espère que vous passerez 3 bonnes fois. Et puis, si vous voulez faire autre chose...
Alors, est-ce que c'était un homme qui vous apprenait des choses ? Je m'adresse à Jérôme et à Pierre. Ou est-ce que c'était un homme avec qui on vivait des expériences ?
Bon, on vivait des expériences.
Jérôme Deschamps.
Moi, je lui dois énormément parce que lui, il a ouvert la porte à mon théâtre. Enfin, à ce que j'ai fait, vraiment.
Et à la fois comme acteur, aussi comme metteur en scène. Il a compris que vous étiez les deux.
Oui, c'est grâce à lui que j'ai fait les premiers spectacles.
Il vous a regardé, quoi, comme on dit.
Oui, mais on était, en fait, on était liés par un secret, c'est qu'on était très amis, en fait. On était vraiment amis. Plus qu'une relation comme ça de jeune comédien à un metteur en scène. On était amis et on riait tout le temps. Il était très drôle aussi, Antoine Vitesse. Il faisait des imitations, tout le temps faisait des imitations. Mais c'est vrai que cet endroit d'Ivry était extraordinaire. Moi, il m'avait confié un atelier. Et ce qui était absolument merveilleux, c'est que se mêlaient des gens qui arrivaient de la Sorbonne parce qu'on savait qu'il se passait quelque chose chez Vitesse et tout ça. Et en même temps, il y a des gens qui descendaient des immeubles et qui venaient là parce qu'il n'y avait simplement rien à faire. Et qui venaient là pour voir qui débarquait là-dedans. Et donc, tous ces croisements, ces rencontres étaient...
Ils m'étaient étonnés d'être aussi bien accueillis.
Oui, bien sûr. Même.
Que vous a-t-il transmis, Pierre Vial ?
Ah ben moi, il m'a transmis la faculté, comment dire, d'être fidèle à moi-même. C'est-à-dire de savoir que je pouvais jouer les faces tragiques, les faces comiques, les faces burlesques. Voilà, il m'a transmis cela et en même temps le fait qu'il m'ait donné l'annoncier où j'étais toujours en train de faire quelque chose, de faire une utilité dans une des scènes, de faire.
Donc c'est le soulier de satin.
Dans le soulier de satin, disons que c'était. Il pensait que j'avais un appétit finalement de tout. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai essayé de transmettre moi-même au conservatoire, c'est de donner à chacun l'appétit de tout, qu'il s'agisse de farce, qu'il s'agisse de tragédie, qu'il s'agisse de comédie, qu'il s'agisse de modernisme, ou qu'il s'agisse de parti pris sur telle chose ou telle autre. Mais de toute façon, ce qui était important pour lui, c'est que personne ne s'exclut des exercices et que ceux qui, peut-être, n'ont pas joué la tragédie de leur vie, s'y mettent. Et c'était des résultats absolument prodigieux. Et de demander à Nadas Trocar, tragédienne née, de faire du Phédo. Parce qu'il trouvait qu'il y avait une parenté formidable entre Phédo et Racine, la nécessité des rythmes, la nécessité des contre-rythmes, etc., que Nada, je crois une fois que c'était, me semble-t-il, dans, je sais pas s'il l'a présenté, peu importe, mais je l'ai vu dans deux promos dont pas tenu, en exercice, elle était formidable. Elle était formidable, alors qu'on l'avait vu formidable dans Phèdre, voilà.
Donc je rappelle que deux livres consacrés à Antoine Vitesse viennent d'être publiés. Donc ce gros volume, Le Théâtre des Idées. Et pour terminer cette émission, pour apprendre cette phrase, vous parliez de votre rôle de l'annoncier qui reste en lettre de feu dans nos mémoires lors du soulier de satin monté par Antoine Vitesse. Voici ce qu'il écrivait à propos de la préparation du soulier de satin. « C'est cela notre sujet. Il s'agit de montrer comment cela peut se fendre, la muraille du cœur humain. » Voilà, ben merci à tous. Je rappelle que Les Mousquetaires au couvent, c'est en ce moment même à l'Opéra Comique, que Georges Feydeau, ça commence en ce moment même le fil à la patte à la Comédie Française, et que les Tégestan, eh bien, vous pouvez aller tromper votre amoureux ou votre amoureuse tranquillement au théâtre tout en ayant la perversité du mensonge, c'est tous les soirs au Théâtre de la Bastille. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à Maë Ronan qui était à la technique, à Jean-Baptiste Ogdibert pour sa programmation musicale. Périne Malinge a préparé cette émission, Marie-Hélène Fauquet l'a réalisée. Et après le journal de minuit, vous retrouverez Nathalie Piollet pour l'album de minuit.